Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant réalisé en partenariat avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par le pasteur Jacques Bouvier de l'Église protestante unie de France. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Le pasteur Jacques Bouvier est heureux de vous accueillir. Il vous souhaite la bienvenue pour ce culte qui nous rassemble en ce dimanche 5 mai, entre Pâques et Pentecôte. Accueillons la parole de Dieu. Seigneur, ce n'est pas pour trouver grâce à tes yeux que j'écoute ta parole, car tu m'as déjà trouvé et tu m'as déjà tout donné. Si j'écoute ta parole, c'est parce qu'elle me fait vivre, me délivre et me console. Elle est le pain de ma route, la paix dans mes tourments, la force de mes jours. Envoie maintenant ton Saint-Esprit sur ton peuple rassemblé, pour qu'il essuie nos yeux et façonne nos oreilles, afin que ta parole nous accompagne sur nos chemins certes semés d'obstacles et semés d'épreuves, mais habités par ta promesse. Amen. Nous lisons aujourd'hui la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18, les versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois. » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Ainsi en va-t-il du royaume des cieux comme d'un roi et qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Pour commencer, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le vendre ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, en remboursement de sa dette. Se jetant alors à ses pieds, le serviteur, prosterné, lui disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant « Rembourse ce que tu dois ». Son compagnon se jeta donc à ses pieds et il le suppliait en disant « Prends patience envers moi et je te rembourserai ». Mais l'autre refusa. Bien plus, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé ce qu'il devait. Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. Alors, le faisant venir, son maître lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Et, dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire, en attendant qu'il lui remboursait tout ce qu'il lui devait. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Revenez à Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, proclamait le prophète Ésaïe. Pardonner, pardonner, il y a des limites à toutes choses, n'est-ce pas? Un moment arrive où il devient impossible de pardonner, où il n'est plus question de passer l'éponge. D'ailleurs, le bon sens populaire le dit bien. Pardonne jusqu'à un certain point. Alors, pardonnez, pardonnez, faut voir, n'est-ce pas? Quand Dieu pardonne, il se donne lui-même pour combler l'abîme. Il se donne en son Fils. En son Fils qui s'est offert à la place de l'homme pour payer le prix du pardon, pour satisfaire la justice divine et pour porter à notre place le châtiment que nous méritions. Dieu jette les péchés derrière lui, affirme Ésaïe. Il les met sous ses pieds ou les jette au fond de la mer, s'écrie Michée. Lorsque vous arrivez à mon temple, écrit Peggy, essuyez-vous les pieds et n'en parlons plus. Quand Jésus est là, il parle de façon encore plus percutante que les prophètes. Ton culte est sans valeur si tu ne pardonnes pas à ton frère. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi la gauche. Voilà ce qui revenait sans cesse dans l'enseignement de Jésus. C'était si énorme, si contraire à toute sagesse, si différent de la sagesse humaine. Car notre sagesse humaine demande, réclame, suppose, exige la réciprocité. Je donne, tu donnes aussi. Je pardonne, tu pardonnes aussi. Faisons un pacte, mettons-nous d'accord. On ne peut toujours se laisser faire. Oui, il doit bien y avoir un moment où il faut dire « c'est assez ». Désormais, je ne me laisserai plus faire. Voilà sans doute pourquoi Pierre, un beau jour, Pierre l'audacieux, le dynamique, le carré, Pierre a posé la question à Jésus. « Seigneur, combien de fois pourrais-je pardonner à mon frère ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Sous-entendu, « après je t'y rentrerai, c'est terminé. » Vous connaissez la réponse de Jésus. Jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire toujours. C'est-à-dire, à aucun moment tu ne peux dire « c'est terminé ». À aucun moment tu es le juge. Car Dieu seul est juge. Dieu aura le dernier mot. La méchanceté, le cynisme, la dureté ne triomphent que pour un temps, et ce n'est pas à toi que revient le droit de régler leur compte aux autres. Cette annonce du jugement dernier, du triomphe final du bien sur le mal, est évidemment mystérieuse. Mais nous commettrions une erreur de penser qu'elle n'est qu'un à côté, qu'un élément incertain du message évangélique. Car l'annonce du royaume, c'est-à-dire du triomphe de la bonté sur le mal, est une partie intégrante de l'évangile. Et cela signifie, aussi longtemps que tu vivras, tu pardonneras. Car à Dieu et à Dieu seul appartient le jugement. Surtout, ne pensons pas que cela signifie qu'un jour, on réglera leur compte et qu'avec un peu de patience, ils ne perdent rien pour attendre. Jésus ne dit-il pas ici que le serviteur impitoyable sera puni jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il avait détourné? Et dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul ne reprend-il pas cet enseignement ? Ne vous vengez pas vous-même, car le Seigneur a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Enfin, dans la description du jugement dernier de Matthieu 25, Jésus ne décrit-il pas la surprise désagréable éprouvée par ceux qui se croyaient à l'abri ? Ainsi, frères et sœurs, dans tous les cas, la note dominante est celle-ci : l'avenir, la fin, sont entre les mains de Dieu, et c'est le Seigneur qui aura le dernier mot. Dans le pardon, comme dans l'amour, le royaume ne donne pas de chiffres. Il veut tout, car il veut nous libérer de toute rancune et de tout esprit de calcul. Alors, ne nous plaçons jamais dans la position du juge. L'enseignement central de cette parabole est le suivant. Voici un homme à qui son maître a pardonné. Oserais-tu faire ce qu'il a fait ? Te retourner contre les faibles. Toi, tu es dans la position de celui qui reçoit le pardon de Dieu. Sans ce pardon reçu chaque jour, que serais-tu ? Comment pourrais-tu donc te retourner contre ton frère et lui dire « paie ce que tu dois ». Tu vis, tu vibres, tu éprouves joie et peine, espoir aussi parce que tu participes à l'amour de Dieu qui te fait dépasser le quotidien. Parce que du fond des âges viennent vers toi sa parole et son esprit. Et tout à coup tu dirais « non, maintenant j'arrête les frais, je juge, je ne pardonne plus ». Tout à coup, tu aurais oublié que le royaume de Dieu, c'est la totale destruction de toute comptabilité dans les relations. Tout à coup, tu aurais oublié que la bonne nouvelle de notre parabole, c'est que de la montagne que constituent nos offenses, Dieu a fait une plage nivelée, recouverte par la marée de sa grâce, par don, pardon. La dette du premier serviteur représente, tenez-vous bien, 60 millions de journées de travail, 10 000 talents. Tandis que le second serviteur, lui, doit au premier l'équivalent de 100 journées de travail, 600 000 fois moins. Ferais-tu comme ce premier serviteur qui ne se rend pas compte apparemment de cette différence, qui ne voit pas que la dette que le roi vient de lui remettre est infiniment plus grande que celle de son compagnon envers lui? Aurais-tu toi aussi du mal à comprendre que tes dettes à l'égard de Dieu sont immensément plus importantes que les dettes des autres à ton égard, dans cette même proportion de 1 à 600 000. Bref, aurais-tu tendance à considérer l'offense qu'on te fait comme considérable et nettement plus grave que ta propre offense à Dieu? Devant l'Évangile, frères et sœurs, nous sommes tous appelés à nous interroger sérieusement. Est-ce que moi, le pardonné, je vais me retourner contre mon frère pour le juger, pour le soumettre à la loi, à ma loi? Devant l'Évangile, prenons garde au pardon donné du bout des lèvres, qui sont pires qu'une franche réprobation. Ne passons pas notre temps à nous justifier, mais veillons au danger de l'inconséquence. Veillons à l'harmonie entre le croire et le faire. Frères et sœurs, qu'est-ce qui va changer dans notre vie maintenant? Qu'est-ce qui va changer, non à cause de cette prédication, mais à cause de la puissance de Dieu, à cause de sa parole reçue, à cause de notre retour à Dieu? Il y a, chers amis, mille et une façons de pardonner. Il se peut qu'il nous faille faire un geste, dire un mot. Il se peut que suffise un changement d'attitude. Il se peut que tout se passe dans notre cœur et que le temps ou les circonstances ne permettent rien d'autre. Il se peut que notre pardon se manifeste à d'autres que ceux à qui nous pardonnons. Il se peut que pardonner, c'est-à-dire lâcher prise sur le ressentiment que l'on entretient vis-à-vis d'un autre, rétablisse aussi le corps individuel et communautaire. L'essentiel, c'est de nous laisser conduire par l'Esprit, en chassant de nous la loi de la vengeance ou celle du talion, pour vivre la loi du pardon demandée par Jésus lui-même, jusqu'à 70 fois cette fois, c'est-à-dire toujours. Pardonner, c'est admettre que nous n'allons pas aussitôt faire un miracle. C'est recevoir la première des grâces, celle qui nous introduit dans le monde de Dieu. Pardonner, ce n'est pas effacer le passé. Il n'y a de véritable pardon que si je n'ai rien oublié et que si je vis la blessure comme si elle était d'aujourd'hui. Car le passé est toujours là, mais il prend avec le pardon un sens différent. Il n'est plus d'obstacle. Il devient plateforme de départ vers l'avenir, car le pardon est contagieux. Il fait place nette. Il crée du nouveau. Il donne par-dessus. Il comble par amour ce qui manque. Il donne de lui-même pour rétablir l'équilibre. Qu'est-ce donc, frères et sœurs, qui va dès aujourd'hui changer dans notre vie? Savez-vous que tous nous sommes sans défense, pauvres, désarmés, mais que la seule puissance vraie que nous ayons dans les mains, c'est celle du pardon? Je vous invite donc à donner dans vos vies des signes de pardon, afin que vos vies ne soient pas simplement un écho de votre entourage, mais un écho de Dieu, de son pardon, de son amour, qui ne calcule jamais, qui toujours recommence. Tout, à tous, pour toujours. Voyez Nelson Mandela, dont les premiers mots, après 27 années de prison dans les geôles du pouvoir africanaire, n'expriment aucun ressentiment, aucune volonté de revanche ou de rétribution, mais sont des paroles de pardon, dans un esprit de réconciliation, de non-violence, de paix et de respect. Voyez Oumar Moulinde, ce pasteur brûlé au visage par les islamistes en Ouganda en décembre 2011. « Dieu les aime, dit-il, et je leur pardonne. » Voyez Desmond Tutu, archevêque anglican, prix Nobel de la paix en 1984, qui a bataillé toute sa vie pour que la justice et les droits de l'homme soient enfin rétablis, et dont la voix prophétique n'a cessé de crier « Il n'y a pas d'avenir sans pardon ». Voyez le père Maximilien Kolbe, qui à Auschwitz s'est offert à prendre la place d'un père de famille condamné à mourir de faim dans une cellule du bunker. Le pardon ne se définit pas, écrit Lita Bassé, mais sur son passage, il laisse comme une signature. La relation à l'autre a eu la priorité et la signature du pardon épouse les contours du visage d'un autre, source d'une joie décuplée. Dès aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes invités à nous inspirer de ces témoins du Dieu vivant, à dire nos thèses pour l'Évangile d'aujourd'hui et à montrer quelle autorité nous donnons à la Bible dans notre vie de chaque jour. Frères et sœurs, entre Pâques et Pentecôte, rien ne saurait nous faire oublier aujourd'hui l'actualité de ce monde pour lequel l'apôtre Paul nous invite avec lui à achever l'annonce de la parole de Dieu et à faire connaître le Christ au milieu de nous, lui l'espérance de la gloire. Autrement dit, il s'agit de manifester pleinement notre retour à Dieu. Le pardon fait partie de la grâce que Dieu nous accorde, malgré tout et malgré nous. Il est une des réalités fondamentales de l'ordre liturgique de chaque culte qui s'ouvre et qui se termine, par cette proclamation, la grâce vous est donnée de la part de Dieu. Chers amis, la seule puissance vraie que nous ayons dans les mains, c'est celle du pardon. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu vous accorde la grâce de faire changer dans votre vie la qualité de son retour vers lui, à lui, pour lui. Retour pour le Seigneur, retour du fond du cœur. L'Évangile, disait Luther, l'Évangile, c'est la parole de Dieu et le témoignage des hommes. Amen. Nous confessons notre foi avec Michel Hubeau. Je crois que le pardon, c'est Dieu qui l'a inventé. Car un certain vendredi dont il se souviendra pour l'éternité, il n'a pas laissé éclater sa colère parce que son propre fils, torturé, hurlant de douleur, l'a supplié de pardonner aux hommes, à ses frères. Je crois que le pardon est un don qu'il accorde à ceux qui le lui demandent. Je crois que le pardon est la plus belle manifestation de la vie de l'esprit au cœur de l'homme. Je crois que pardonner, c'est avoir part au don de la vie de Dieu. Je crois que demander pardon à son prochain, c'est demander à Dieu que s'efface à tout jamais les rides que nous avons tracées sur son front et les pleurs que nous avons suscités sur ses joues. Je crois que le pardon, c'est croire que l'impossible est possible, car le pardon fait partie de la grâce. Nous nous unissons dans l'intercession. Loué sois-tu, Seigneur, pour ce jour. Tu nous permets de faire halte, de reprendre des forces, de retrouver des sœurs et des frères pour te louer et recevoir ensemble de toi notre joie de vivre. ô notre Dieu et notre Père, lorsque tu nous dis d'aimer, c'est Jésus ton Fils que tu nommes, Jésus amour. Lorsque tu nous dis de servir, c'est Jésus ton Fils qui est là, Jésus serviteur. Lorsque tu nous parles de liberté, c'est Jésus ton Fils que tu donnes, Jésus sauveur. Lorsque tu nous enseignes à pardonner, c'est Jésus ton Fils que nous entendons, Jésus pardon. Merci pour cette parabole qui nous appelle à donner dans nos vies un écho du pardon et de l'amour de Dieu. Qui nous appelle à faire un pas, le premier pas, vers l'autre, dans le sens de Dieu et de son pardon, qui ne calcule jamais, qui recommence toujours. Merci parce qu'avec toi, dans le pardon, on n'est jamais deux, mais toujours trois, car tu es là, au milieu de nous. Tu vis toi-même le pardon. Tu n'attends même pas que tes enfants demandent le pardon. Tu fais de ceux qui pardonnent des participants à l'action de ton Père. Seigneur, toi qui fais sans cesse vers nous le premier pas, toi qui auras sur toute chose le dernier mot, conduis par ton esprit nos communautés et nos vies. Aide-les à donner au monde le témoignage du royaume et l'image de chrétiens nourris par ta parole et par ton amour. Pardonner, finalement, ce n'est pas autre chose que de laisser aller un amour qui n'est pas notre, pour qu'il nous délivre de l'enfermement où nous tient la souffrance subie. C'est bien parce que Dieu nous adopte comme ses enfants que son amour peut, par don, aller au travers de nous. Nous te prions pour les malades, les isolés, les malheureux, les faibles, les sans défense, les petits, tous ceux qui souffrent. Nous te prions pour ceux que nous aimons, pour ceux que nous pardonnons, pour ceux qui nous pardonnent, pour ceux que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour ce monde qui a tellement besoin de pardon, ce monde qui a tellement besoin de te trouver, de t'aimer, de se savoir aimer, et de commencer avec toi une histoire toute nouvelle. Revenez à moi, dit Dieu, de siècle en siècle. Et Jésus fait route avec nous tous pour ce retour à Dieu, dans une vie inéluctablement remplie de lumière d'en haut. Père, nous te prions au nom de Jésus, le grand intercesseur, Jésus qui se place toujours entre Dieu et nous, Jésus qui se tourne vers Dieu pour lui parler de nous. Jésus qui se tourne vers nous pour nous parler de Dieu. Jésus qui nous a appris à te dire d'un seul cœur et d'une même voix, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. À la fin du culte, il y a encore deux choses à recevoir de la part de Dieu. Tout d'abord, un mot d'ordre, une exhortation, un encouragement. « Je suis le multiplicateur, dit Dieu, et je multiplie tout. La vie, la joie, le pardon. Et si l'homme fait toujours le malin et multiplie le mal par 10, moi, je multiplie le pardon par 1000. » Des quatre opérations, dit Dieu, celle que j'aime le mieux, c'est la multiplication. L'addition, c'est très bien, mais ça ne va pas assez vite pour moi. C'est bon pour le comptable. Moi, je ne sais pas compter. La soustraction, ce n'est pas mon genre. Quand il faut ôter, enlever, retrancher, soustraire, j'ai mal partout. Quant à la division, je passe mon temps à en réparer les dommages. Voilà des siècles et des siècles que j'essaie d'apprendre aux hommes à ne plus faire de division. Ce sont nos fameux diviseurs. Des diviseurs infatigables, incorrigibles. Ils se servent même de mon nom pour diviser. Mais la multiplication, c'est ça ma spécialité. Je ne suis moi-même que dans la multiplication. Je ne me sens bien que dans la multiplication. Je suis imbattable dans ce genre d'opération. Je suis le multiplicateur. Et je multiplie tout. La vie, la joie, le pardon. Et si l'homme fait toujours le malin et multiplie le mal par 10, moi, je multiplie le pardon par 1000. Et puis, avant de quitter le lieu de culte, avant de repartir, avant de replonger dans le monde, Dieu nous donne sa bénédiction. Sa bénédiction, c'est-à-dire la promesse de son amour, la certitude de son accompagnement, l'assurance de sa fidélité. Recevons donc maintenant la bénédiction de Dieu. Avec Joël, « Reviens au Seigneur ton Dieu qui est tendresse et pitié. » Avec Matthieu, « Agrandis ton cœur aux dimensions du pardon infini de Dieu. » Et avec l'évangéliste Jean, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Amen.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir de son site internet nimes-église-protestante-unie.fr ou bien en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par le pasteur Jacques Bouvier de l'Église protestante unie de France. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme.